Point de vue avec Régie Bulle Immobilier.
Bonjour à toutes et à tous, le rythme s'est emballé dans ces playoffs. La dernière fois qu'on avait sorti nos micros, Gauthieron menait tranquillement 2-0 contre Lugano en quart de finale. Puis il y a eu le retour des Tessinois, le 7e match, la victoire des Dragons, la folle course aux billets, la qualification du Lausanne Hockey Club, le week-end de Pâques et lundi, le premier match gagné de la demi-finale face aux Vaudois. Pour évoquer le parcours de Fribourg-Gauthieron, nous accueillons dans cet épisode de Point de vue David Abicher, l'entraîneur des gardiens de Fribourg-Gauthieron. Salut David.
Salut.
Bienvenue.
Merci beaucoup.
Et en face de moi, un homme qui a l'habitude, une fois par semaine au moins, de défier les gardiens, le redoutable Pierre Chauvet. Salut Pierre.
Salut tout le monde, ciao.
Tu nous donneras des petites astuces pour battre un gardien?
Pour battre Schlegel.
Schlegel, c'est vrai?
Ouais, entre les jambes, je crois que je me suis inspiré de Christophe Berchi, qui a trouvé la solution dans l'acte 7.
En tout cas, avant de détailler cette demi-finale face à Lausanne, David, j'ai quand même envie de te demander comment tu as vécu la qualification de Gauthieron. Il y avait beaucoup de stress, d'émotion dans la patinoire, autour de l'équipe. Et toi, tu étais comment?
Bon, c'est serein. Je pense qu'on a fait... On savait que ça allait être une série difficile. Lugano, qui a vraiment bien joué, surtout à partir du match 2. Je pense qu'ils nous ont vraiment fait... C'était un défi assez conséquent pour nous, comme équipe, mais j'étais confiant qu'on va gagner ce match 7. Et puis aussi l'équipe, elle avait l'air nerveux, mais une bonne nervosité.
On parlait de Schlegel avant pour rire. Tu pensais que aussi la réalité allait peut-être le rattraper à un moment donné et qu'il allait peut-être être un peu moins bon que ce qu'il avait été entre le match 3 et 6.
Moi, je pense toujours quand tu mets un gardien sous pression, tu as des chances de marquer tôt ou tard. Statistiquement, ils vont rentrer. Alors, j'étais confiant qu'on allait marquer. Il y avait aussi beaucoup de chance qu'on n'a peut-être pas pris des tirs parfaits. On lui a tiré dessus un petit peu, mais il a fait une très, très grande performance, des gros play-offs. Et puis, mais on savait qu'il a fait une bonne saison, qui était statistiquement et puis aussi quand on le voyait jouer meilleur que Koskinen cette année.
L'avantage de la glace a été respecté dans ces quarts de finale. On l'a vu pour Lausanne, on l'a vu pour Zug, on l'a vu pour Gauthieron. Comment on peut expliquer cette force au match 7 à domicile? L'équipe est plus en confiance que l'autre. Qu'est-ce qui rend la chose plus facile, entre guillemets?
Moi, je pense toujours que le match 7, c'est le seul match où tu as un petit avantage de jouer à la maison. Après, on regarde aussi les matchs 7. Si c'est à la maison, ça veut dire que t'es l'équipe qui était mieux classée. On peut dire que t'es la meilleure équipe. Alors, les chances de gagner s'élèvent un petit peu. Mais c'est un match 7. Et puis, tout peut arriver. Et puis, il faut d'abord le gagner. Et puis, heureusement pour nous.
Mais les statistiques sont quand même assez impressionnantes. Pierre, tu avais fait le calcul. Je crois que c'était 81% pour les équipes.
Ouais, 36 sur 43. Donc maintenant, on est sur du 39 sur 46.
Ouais, ça a encore augmenté. C'est quand même un chiffre impressionnant. Donc ça s'explique comment cette telle différence dans la préparation du match aussi, ou c'est le public ou c'est les arbitres qui n'osent pas trop pénaliser l'équipe à domicile?
Ouais, c'est dur à dire. Peut-être c'est le voyage. Ben, si on prend Lugano, ils sont venus la veille. Mais c'est un voyage supplémentaire qu'ils ont dû faire et que nous, on a pu dormir dans nos lits. Ça, c'est peut-être un avantage. Après, c'est aussi un petit peu un coup de chance que le nombre, il est si élevé. Si on regarde en NHL, c'est, je crois, 56% des matchs 7. Alors là, on a un petit peu un autre chiffre. Alors... je ne sais pas ce qui est spécial en National League.
On voit qu'en demi-finale et en finale, j'ai aussi vite regardé, c'est un peu moins élevé. On passe à 70% en match 7 en demi-finale et qu'à 55% en finale. Donc voilà, peut-être.
On voit que c'est deux équipes toujours très crispées, évidemment, qui jouent ces matchs match 7. Donc on sent que le public a évidemment peut-être un rôle encore plus important qu'il peut l'avoir durant le reste de la série, le public qui peut aussi peut-être inciter les arbitres à donner une pénalité ou deux de plus en criant un peu. Donc voilà, je pense que y a quand même un vrai avantage à jouer ces matchs-là à domicile. Mais c'est vrai que la comparaison avec la NHL, je ne connaissais pas cette statistique, c'est un peu plus étonnant. Toi qui as joué, tu...
Il y a aussi des voyages en NHL.
Il y a aussi des voyages, le format un petit peu différent. Ça veut dire qu'on joue deux à la maison, deux à l'extérieur et puis après un. Mais ouais, moi je pense que le chiffre il est trop élevé en Suisse, peut-être encore. Je pense que ça va baisser un petit peu dans les prochaines années. Mais déjà 70% en demi-finale, je trouve que c'est énorme. Si on pense qu'on peut jouer le match 7 à la maison, tu as 70% de chances de gagner avant que le match a commencé, c'est pas mal.
Tu avais joué un match 7 comme gardien à l'époque?
Oui, j'ai joué un match 7, c'était la finale de conférence contre Détroit.
Pas mal.
Oui, mais malheureusement, j'ai dû rentrer à 6-0 et puis à la fin, on a perdu 7-0 contre Détroit et puis c'était une grosse déception.
Ouais. Mais toi, t'as perdu que 1-0, ne l'oublions pas.
Mais perdu, c'est perdu.
T'as d'autres bons souvenirs à partager, t'hésites pas, Pierre.
Ouais. T'avais remplacé Patrick Roy ou bien il était déjà plus là?
Si, ouais. J'ai remplacé Patrick, ouais, c'était l'année juste après qu'on a gagné la Coupe, en 2002. Et on avait la chance de répéter tout ça et on menait 3-2 dans la série. Et malheureusement, ça n'a pas suffi.
On revient à l'actualité avec cette demi-finale contre Lausanne. On parlait de l'avantage de la glace pour conclure une série. C'est peut-être aussi un avantage pour bien la commencer. Gauthieron a gagné son premier match à domicile, avait gagné contre Lugano. Il y a toujours pas mal de pression sur l'équipe qui reçoit pour lancer la série, mais on voit aussi peut-être que ça aide l'équipe à partir du bon pied. C'était un match serré qui a tourné en faveur de Gauthieron. Et ça, c'est toujours, je pense, bon signe de voir que même si le match n'est pas parfait, Gauthieron arrive à le gagner.
Oui, en play-off, tant que tu gagnes des matchs, comment c'est un peu, c'est pas très important. Après hier, c'était un match assez spécial ou bizarre même. Ça n'avait pas vraiment ce feeling de play-off des deux côtés un petit peu. Et je pense que ça va changer pour le match 2.
C'est les équipes qui s'observent beaucoup, qui ne savent pas trop quoi faire, comment faire, qui risquent pas trop. C'est ça un peu ces débuts de série?
Moi, je pense qu'on ne voulait pas faire trop d'erreurs, eux, la même chose. Et puis, ça crée un hockey un petit peu, des fois un peu passif. Mais je pense que ça va changer. Lugano, c'était un peu la même chose, match 1. Et c'était un match un peu, qui n'avait pas ce feeling de play-off. Et comme on a vu, ça a changé après. Et puis, c'est venu une très bonne série.
On se disait que Lausanne allait être désavantagés par le fait qu'ils n'avaient que 2 jours pour préparer ce match et pour récupérer. Et puis finalement, j'ai presque l'impression que ça les a avantagés parce qu'ils sont un petit peu restés dans ce mode play-off. Ils ont eu aussi passablement d'émotions samedi soir. Fribourg, c'était jeudi. C'est comme si c'était retombé et qu'il y avait de la peine à se remettre finalement un peu dans ce moule-là. Et puis on sentait que, presque comme s'ils ne prenaient pas conscience du match que ça représentait, cette demi-finale. Et final, Lausanne, j'ai trouvé, a été meilleur que Fribourg sur l'ensemble du match. À 5-5, Fribourg la égalise par son power play, marque après ce but dans le troisième tiers où Gauthieron jouait mieux à ce moment-là. Mais finalement, on pensait que ça allait peut-être leur causer du tort un peu ce peu de temps entre quart de finale, demi-finale. Mais ça, sur ce match-là, je pense que ça leur a donné un petit avantage. Je sais pas ce que tu en penses, David.
Ouais, c'est toujours dur à dire. Après, oui, c'est sûr qu'ils sont dans un certain rythme. Comme tu as dit, ils avaient des émotions de gagner ce match 7 qui était encore là, qui est peut-être un peu moins chez nous. Mais je pense que les deux premiers tiers, je suis d'accord avec toi. Je pense que Lausanne était la meilleure équipe, surtout 5-5. En troisième, j'ai mieux aimé notre jeu. On s'est créé des bonnes chances de marquer le 3-1. Et puis après, à la fin, c'était encore une fois chaud où Lausanne mettait la pression, surtout 6-5. Là, les deux, trois dernières minutes où Reto était fidèle au poste.
Surprise hier en voyant la feuille de match du côté de Lausanne avec la titularisation de Kevin Pache au détriment de Connor Hughes. En tout cas, nous, on a été surpris. Est-ce que toi aussi?
Oui, j'étais surpris. Après, tu te prépares pour les deux gardiens, mais c'est sûr que je pensais que c'était Connor qui allait être dans le net.
Justement, alors comment on se prépare? Explique-nous un peu les jours ou les heures qui précèdent, déjà par rapport aux gardiens adverses. T'as des fiches, tu regardes tous les matchs, tu notes les points faibles, les points forts. Comment tu prépares un peu cet affrontement?
Bon, déjà, les fiches sur les gardiens, on fait ça pendant toute l'année. Ça veut dire la saison régulière, Kevin Pash et puis Connor Hughes. On a des vidéoclips qu'on coupe après. Maintenant, on avait encore la série contre Davos. Et puis, on essaie de trouver un petit peu les choses qu'on doit faire pour avoir plus de succès de marquer. Et on essaie de mettre ça en vidéo, que les joueurs peuvent voir ça. Et puis, peut-être quand ils rentrent une fois sur un breakaway ou s'ils ont une chance, ma meilleure chance, c'est de tirer ici. J'ai une bonne chance que ça va rentrer. Alors ça, c'est point numéro un. On regarde les gardiens adverses.
Ça, vous regardez avec les buts qu'ils ont encaissés durant la saison, s'il y en a deux ou trois qui se ressemblent, vous dites là, il y a peut-être une faiblesse, on va montrer ces quelques buts à nos joueurs pour les aider à marquer. C'est comme ça que ça se passe?
Ça peut être les deux. Après, les buts, c'est... quand on montre des buts à des joueurs, ils croient plus que si on montre un clip peut-être où il a fait une erreur mais on n'a pas marqué. Alors, mais il y a un peu les deux.
Okay.
Juste pour montrer souvent deux, trois clips, la même chose, que ça rentre dans leur tête, que j'ai raison. Disons ça comme ça.
Tu dois les convaincre que tu as raison.
Exactement. Et puis après, pour Reto, c'est un peu l'inverse. On regarde des tendances que Lausanne a. Alors ça, ils font bien. Ce joueur, il fait bien ça. Et puis là, on montre un petit peu de ce qui s'est passé pendant la saison ou aussi la série contre Davos.
Est-ce que lundi soir à 18h20, quand le line-up est sorti, tu as vite ressorti les clips de Kevin Pash et tu es retourné dans le vestiaire en montrant peut-être à quelques attaquants pour rafraîchir, sachant que j'imagine que c'était plus le scénario Connor Hughes qui avait été préparé ou prévu, ou tu n'as pas eu besoin d'intervenir à nouveau?
Non, parce que... pendant la saison, c'est difficile de faire ça aussi parce qu'on ne sait jamais des fois. Il y a des équipes qui ont trois gardiens où il y a la possibilité de jouer. Alors je prépare, c'est comme deux films si on veut. Un film Connor Hughes, un film Kevin Pash. Et puis quand je reçois le line-up, je vais dans le vestiaire, je branche mon ordinateur. Et puis c'est le film qui tourne en boucle. Et puis les joueurs, ils peuvent regarder une, deux, trois fois s'ils le souhaitent. Et s'ils ont des questions, je suis là pour leur donner réponse.
Tu penses qu'ils ont beaucoup regardé le film Kevin Pash avant ce premier match?
Ça dépend un peu les joueurs. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont plus intéressés que d'autres, qui aiment voir ces choses-là. Il y en a qui aiment ça moins. Ça dépend, c'est individuel. Il y a aussi certains joueurs qui posent beaucoup de questions, comme il y a d'autres joueurs qui n'ont jamais une question.
Et tu vois pendant le match qu'il y a vraiment des joueurs qui essayent, alors c'est un peu cliché, mais voilà, de tirer en haut à gauche et vraiment ils essayent de placer ce puck où tu leur as conseillé de le placer, ou finalement ça se fait beaucoup au feeling où il n'y a pas tellement de ces occasions de vraiment faire la différence, où il y en a qui mettent en pratique. Ouais, c'est ça, pas le temps de réfléchir.
Ouais, des fois ils n'ont pas le temps de réfléchir ou le puck ne vient pas parfaitement et puis ils essaient juste de mettre le puck au but. Mais en règle générale, je vois des choses qu'ils essaient de faire qui étaient dans la vidéo à travers maintenant toute la saison. Mais aussi là, il y a des gardiens où disons, les choses qu'on veut qu'on fasse pour le battre sont plus... on les voit plus que d'autres choses. Il y a certains gardiens, c'est plus subtil. Les petites erreurs qu'il fait, puis il y en a qui font des plus grandes erreurs, et puis là tu vois beaucoup plus que ce que les joueurs essaient de faire. Ça dépend un petit peu le gardien aussi.
Le staff lausannois a expliqué pourquoi ils avaient titularisé Kevin Pash, notamment pour peut-être donner un peu de repos à Connor Hughes, ou si les émotions avaient été hautes. Ils disaient que c'était aussi le bon moment pour lancer leur deuxième gardien, le moment ou jamais, on pourrait dire. Est-ce que ça peut aussi être une explication? Est-ce que la taille finalement de Kevin Pash, qui est plutôt un petit gardien qui ressemble un peu à Schlegel, alors que Connor Hughes ressemble un peu plus à Koskinen, même s'il est plus petit. Tu penses que ça peut aussi être une explication où ils se sont dit, ah, Schlegel les a quand même gênés, on va mettre un gardien un peu plus dynamique devant le but?
Non, je pense que leur rationnel, c'était vraiment ça, de donner un break à Connor. Je pense qu'on va revoir Connor le prochain match. Mais on ne sait jamais, on va se préparer pour les deux. Non, je pense que c'était vraiment juste pour lui donner un break. Il n'y avait pas de réflexion trop sur nous, à mon avis.
C'était plutôt content de voir Pache ou pas?
Non, j'étais surpris, mais pas content. Et puis quand j'ai regardé le warm-up, il avait, pour un jeune gardien comme ça, il avait l'air très serein. Pas du tout stressé aussi pendant le match. J'ai trouvé qu'il a fait un très très bon match. Alors non, il gère ça très très bien.
Pour terminer la question de la préparation d'avant-match, tu parlais des attaquants adverses. Ça veut dire qu'Areto Berra, tu lui donnes ou tu lui montres des clips de pratiquement chaque attaquant adverse de Lausanne ou seulement les principaux, ou c'est plutôt des situations de jeu sur le powerplay ou des choses comme ça que vous discutez ensemble?
Ben, y a déjà le PK qui a une vidéo. S'il y a peut-être quelque chose que j'ai à rajouter, soit je le montre sur un tableau. Ça arrive des fois sur une vidéo. Mais avec Reto, on parle beaucoup et c'est comme ça que ça sort plus. Vidéo, des fois j'aime moins montrer trop de vidéos à Reto, pas qu'il réfléchit trop. Et puis si on prend Connor par exemple, l'année passée, c'était quelqu'un qui était plus visuel à ce sujet-là. Alors tu lui montrais un peu plus de vidéos. Je pense que Reto, il apprend plus si je lui parle. Et puis Connor, c'était l'inverse. Il apprenait plus quand on lui montrait des choses.
Alors là, tu nous parles déjà d'une différence entre Reto et Connor Hughes, ou alors entre Brian Rueger et Reto Berra. C'est des gardiens très différents, un jeune qui doit beaucoup apprendre, un expérimenté. Qu'est-ce qui change justement dans la relation que tu as avec ces gardiens ou dans les exercices que tu fais? Alors dans la transmission, on comprend, il y en a qui sont plutôt visuels, d'autres plutôt oraux, mais dans le travail au quotidien, ça change beaucoup?
Oui, ça change. Je pense que je travaille beaucoup plus avec Brian, surtout maintenant. Reto, c'est quelqu'un, c'est un pro, il est déjà longtemps dans le business. On travaille déjà un moment ensemble, il sait ce que j'attends de lui. Ça roule.
T'as changé des choses, par exemple, dans le jeu de Reto? Vraiment des choses assez spectaculaires, ou c'est que des petits ajustements depuis qu'il est là?
Ouais, si on prend la première année à maintenant, on peut dire oui, il y a eu pas mal de changements. Après, ouais, je pense que c'est, disons, moyen comme changement. Mais on a essayé de simplifier un petit peu son jeu. Et puis là, il est très réceptif. Mais encore là, à la fin, ça, c'est le job du coach de vendre son produit à l'athlète. Et puis avec Reto maintenant, je pense qu'il me fait confiance, il comprend ce que je veux et pourquoi on le veut comme ça. Brian, il y a des choses qu'on doit répéter un peu plus, juste que ça vient automatique et puis qu'il comprend c'est la bonne façon de jouer et peut-être partir un petit peu de ce qu'il faisait dans le passé.
Reto le dit lui-même, il a dû un peu adapter son jeu après son opération au dos. Est-ce que pour toi, c'est qui voit évidemment un peu tous les détails, c'est spectaculaire le changement, ou alors là encore, c'est une question de centimètres, de petites habitudes?
Non, il n'y a pas vraiment de différence à cause de son dos de changer le jeu. On a fait trois petits ajustements, mais ça n'avait pas vraiment l'air. La raison, ce n'était pas vraiment juste le dos. C'est plutôt aux entraînements où on ajuste un petit peu le workload, l'intensité de certains exercices, où on enlève peut-être un mouvement qui est plus dur sur les hanches, qui rentre après dans le dos. Mais non, son jeu avec le dos, on prend pas en considération, ou moi je prends pas en considération, alors.
Ouais. il bouge pas un peu moins qu'avant. Lui disait que des fois il analysait plus le jeu et puis que comme ça il avait peut-être il anticipait mieux, il avait moins besoin de faire des longs déplacements qui pouvaient peut-être lui tirer un peu au niveau de son opération. C'est
Oui, mais ce processus, il a commencé, je pense, il y a 2 ou 3 ans où on voulait jouer un petit peu moins agressif, un petit peu plus creux dans son but, déjà à cause de ses habiletés techniques, à sa grandeur, où il n'avait pas besoin d'être aussi agressif sur des joueurs, le porteur de puck. Si après on donnait un rebond ou il y avait une passe qui se faisait, le déplacement était trop long. Alors ça, on a changé un petit peu. Mais ça n'avait rien à voir avec le dos, c'était juste qu'on pensait que ça lui amenait plus de succès.
Habilité technique, je pense qu'on peut évoquer peut-être son arrêt fabuleux contre Lugano en fin de match. Il y avait 4-2, donc c'est pas forcément un arrêt qui change le résultat du match, quoique il restait 1 minute derrière, donc ça aurait pu être très chaud. Comment tu juges cet arrêt? Est-ce que tu en as déjà fait un comme ça? Quelle note tu lui mettrais?
Bon, techniquement, à la fin, c'est pas comme ça qu'on veut arrêter les pucks, normalement.
Donc, t'étais pas très content.
Non, si. Mais des fois, il y a des situations qui vont si vite qu'on n'a pas le choix. Ben là, c'était un tir rebond directement sur la palette de Carr. Et puis ça, c'est aussi une force d'un gardien de trouver un chemin à mettre une pièce d'équipement devant le puck. Et puis ce qu'il a fait, et puis heureusement pour nous, le gant était au bon endroit, au bon moment.
On demande souvent aux entraîneurs quel est un peu leur style de jeu, comment ils veulent procéder, qu'est-ce qu'ils souhaitent mettre en place. Toi, en tant que coach de gardien, tu as aussi un style que tu essayes, tu dis voilà, je dois vendre ça à mon gardien, je dois lui expliquer pourquoi c'est important. Tu essayes justement de faire pareil avec chaque gardien ou finalement chaque gardien a son style et c'est toi qui t'adaptes plutôt à leur style?
Non, c'est une structure qu'on a des gardiens de 12 ans jusqu'à Reto Berra, qui est la même. Après, il y a des choses qui ne sont pas négociables. Ça, c'est la même chose du gardien de 12 ans jusqu'à Reto.
Par exemple, alors donne-nous deux, trois bases pour toi.
Alors, c'est tracking le puck. Ça veut dire suivre le puck avec les yeux tout le temps. Jusqu'il frappe ton équipement, il ressort ton rééquipement, tu le suis dans la bande. Ça, c'est par exemple quelque chose qui n'est pas négociable. Tous les gardiens doivent le faire. Et puis, ça, c'est, disons, la fondation qui est pour tous la même chose. Après, le plan de jeu est un petit peu adapté pour les plus jeunes qui sont plus petits. Mais aussi là, on est à 90% la même chose. Et puis, vraiment individuel, on parle, je pense, de 5% où Brian va jouer un peu différemment que Reto. À cause, ben, par exemple, la taille, c'est un facteur. Ou peut-être la vitesse de déplacement peut être un facteur. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses où on va dans l'individu. Si on veut, la structure à 95%, elle est pour tous la même chose.
Sur les gardiens, tu parles de Rueger, on a parlé de Connor Hughes. Voilà, toi, tu participes au recrutement de ces gardiens aussi, tu les visionnes avant, tu les connais bien. C'est que tu détectes un certain potentiel chez ces jeunes gardiens et c'est toi qui veux les faire venir et travailler avec eux?
Non, je pense que ça, c'est un travail d'organisation un petit peu. Des fois, il y a des gardiens qu'on aimerait bien venir chercher. Mais il y a plusieurs facteurs qui rentrent là-dedans. Est-ce qu'ils veulent venir? Est-ce qu'ils voient une opportunité de progresser à Fribourg? On a quand même Reto Berra devant. Il y a des questions de budget. Il y a plusieurs facteurs, mais il y a une liste qui se fait. Et puis après, on essaye de chercher la perle rare, si on veut.
Tu t'attendais au développement de Connor Hughes qui prenne une telle ampleur, là, c'était un peu un pari pour lui d'aller à Lausanne, alors, parce qu'il voyait que c'était compliqué à Fribourg avec Reto, mais finalement, alors, il était blessé, mais statistiquement, il fait vraiment une très très bonne saison en play-off, voilà, c'est nouveau pour lui, mais il gagne la série. Tu t'attendais à un tel développement dès cette année?
Oui, je pense l'année passée, il a démontré qu'il pouvait jouer dans cette ligue à un haut niveau pendant un long moment. Et puis ça, c'est toujours un petit peu jouer 5-6 bons matchs. Il y a beaucoup de gardiens qui peuvent faire ça, mais comme il a démontré déjà l'année passée avec nous, où il a vraiment pu jouer beaucoup, presque tous les matchs, et puis il a performé pendant une longue période de temps. En plus, il a joué Spengler Cup, il était avec l'équipe nationale, alors il avait un programme très très chargé. Et puis aussi là, cette année avec Lausanne, il montre qu'il a sa place comme numéro 1 dans cette ligue.
Et quand tu repenses au Connor Hughes qui avait débarqué à Fribourg en 2020, qu'est-ce que tu te dis?
Je pense que c'était les premiers 2 ans qu'on a travaillé ensemble, c'était pas évident pour les deux, je pense.
Ouais.
Parce que déjà, il avait de la peine à voir, je pense, pourquoi je voulais les choses d'une certaine façon. Lui, il les voyait des fois un petit peu différemment. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'était vraiment à la fin de l'année passée qu'on a eu notre séance de fin d'année où il a dit merci, parce que j'ai enfin ça m'a pris 2 ans, mais j'ai enfin compris ce que tu voulais. Puis,
Disons que c'est où que ça se jouait, cette lutte de pouvoir, mais c'est pas le cas, cette discussion que vous pouviez avoir où vous n'étiez pas forcément 100% d'accord. Qu'est-ce que toi tu lui demandais, qu'est-ce que lui il voulait pas forcément faire?
Ouais, c'est juste, il y a une. On veut jouer simple, pour le mettre simple. Et puis, ça veut dire qu'on est toujours devant le puck, qu'on reste toujours compact, ça veut dire les bras, les jambes en dessous de son corps, et puis bouger comme ça. Et puis lui, il avait une tendance de surréagir un petit peu, d'ouvrir trop vite. Et puis là, il tombait en avant, et puis ça crée des rebonds et des problèmes à arrêter les rebonds. Ça, c'est, je pense, le plus grand facteur où on a travaillé vraiment dessus 2 ans. Et puis la troisième année, ça, le déclic est venu.
Mais c'est difficile, j'imagine, comme gardien, de changer des habitudes qu'on peut avoir depuis plusieurs années. C'est comme si on demandait à un coureur à pied, un coup, de changer de foulée. Ça devrait te parler, cette comparaison, toi qui cours beaucoup.
Oui, c'est très compliqué. Plus âgé le gardien, plus de temps ça va prendre. Mais en même temps, comme on a déjà discuté un peu avant, à la fin, c'est mon job de vendre ce que je veux. Et puis tant qu'il n'accepte pas ça, c'est dur de changer quelque chose. Puis c'était un petit peu un combat, mais ça m'a aidé moi aussi comme entraîneur de trouver des autres solutions, d'essayer de trouver des autres explications pour qu'il comprenne. Alors à la fin, je pense qu'on a profité les deux sur ces 2 ans de, ouais, je dis pas de misère, mais où on avait un petit peu des conflits, disons.
Ok.
Et puis le fait de voir que le gardien a peu d'opportunités de prouver sur la glace qu'il a progressé, qu'il a compris. Alors évidemment qu'il y a un gros travail qui se fait à l'entraînement, mais peut-être que voilà, d'avoir que quelques matchs comme ça, ça aide pas non plus à se rendre compte, à voir les choses, ou bien ça, c'est difficile pour le gardien remplaçant.
Le plus difficile, c'est de pas jouer, c'est la motivation. À la fin, un gardien doit avoir un but. Alors si tu es numéro 1, c'est mardi, tu sais que tu vas jouer vendredi, c'est facile. Mais si tu es deuxième gardien, puis tu sais pas si tu vas jouer dans 2, 3 ou 4 semaines, ça c'est difficile pour la tête aussi, pour être motivé, pour se donner à fond chaque entraînement. Et ça, il n'y a pas tout le monde qui peut faire. Alors c'est aussi le job au coaching staff, à nous, de leur mettre des objectifs plus possible aux entraînements. Et puis si on peut leur dire, écoute, tu vas jouer ce match-là ou ce match-là.
Vous essayez de donner à l'avance un peu le calendrier.
Oui, moi je trouve que c'est mieux. Comme ça, il a un objectif et puis travaille au prochain match contre Ajoie ou contre Zurich. Et puis ça donne une motivation supplémentaire. Et souvent, on voit qu'il commence à s'entraîner nouveau un tout petit peu mieux ou la motivation elle est juste plus grande.
Et comment tu fais là pour garder Brian Rueger concerné en fait, parce qu'il devrait normalement pas jouer à moins que il y ait 6-0 en finale de conférence et puis qu'ils doivent rentrer. Pas de finale de conférence, mais vous avez compris la référence. Tu parles beaucoup avec lui, comment ça se passe?
Oui, tu parles beaucoup. Ou ces nouveaux-là, tu essaies de mettre des objectifs à un entraînement. Aujourd'hui, j'aimerais que tu fasses ça, ça, ça. Ça aide. Et puis après, c'est nouveau, on discute avec eux. Et puis, tu sais jamais ce qui peut arriver. Et puis, si tu n'es pas prêt, tu vas le regretter toute ta vie. Et puis, je ne raconte pas souvent des choses sur ma carrière à moi, mais ça, c'est quelque chose que j'ai aussi vécu. Et puis, j'essaie de leur donner quelques conseils, comment moi, je l'ai vécu, et puis comment moi, j'ai géré ces situations-là. Parce que si on regarde, si on va jusqu'en finale, c'est mois de juin en Ligue nationale, alors ça fait une longue saison. Et puis, ça fait 2 mois que tu n'as plus joué. Il faut trouver quelque chose pour te rester motivé et puis continuer à travailler fort.
Tu ne vas pas nous faire une Christophe Alouette en mettant tout d'un coup Brian Rueger dans un match de play-off? Ce n'est pas le plan?
Ben pour l'instant, pas, mais on ne sait jamais.
Puis alors, le petit conseil ou le petit truc que tu lui as donné par rapport à cette longue attente ou cette période où tu ne joues pas, toi qui as vécu ça, tu te motivais comment quand tu étais dans l'ombre de Patrick Roy?
Ben, mon but, c'était toujours d'être le gars qui travaille le plus fort. Ça veut dire qu'on avait beaucoup de joueurs, 4-5 joueurs qui ne jouaient pas. Et puis, tu voulais toujours être le gars qui faisait un petit peu plus. Et puis, où le coach, il dit, lui, il est prêt. Ça, c'était ma motivation en moi. Surtout mes premières années où j'étais une recrue, où j'étais dans les, ça s'appelait les Black Aces. Ça veut dire qu'on monte de la Ligue américaine en NHL, si jamais, où on est troisième gardien. C'était toujours mon but de dire, ils viennent vers moi et puis disent « Good job, super, continue comme ça ».
Et puis ces jeunes gardiens dont on a parlé, à quel moment on sait ou on sent qu'ils sont prêts? On a évoqué Kevin Pash, je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui imaginait qu'il allait jouer une demi-finale de play-off. Si on en parlait au mois de septembre l'année passée, il était plutôt à Martigny, il est jeune. Est-ce que toi, tu pensais à une telle ascension possible et est-ce que tu penses que Brian Rueger pourrait avoir sa place aussi un jour en National League?
À la fin, il faut mettre les jeunes. La seule façon de savoir, c'est qu'il faut les mettre dedans et puis ou les lancer dans l'eau et puis voir s'ils arrivent à nager. Je pense que ça, c'est tout. On voit certaines personnes ou certains athlètes où c'est plus naturel que d'autres, mais à la fin, c'est ça. Il faut que, quand ils ont leur chance, qu'ils la saisissent. Et puis, mais comme coach, je ne peux jamais être sûr. À la fin, il faut les faire jouer et puis voir ce que ça donne.
On a une question concernant un très jeune gardien de Thomas Morel qui demande ce que tu penses de Loïc Gallet.
Loïc, c'est un gardien qui a un bon potentiel. Je pense qu'il s'est très, très bien développé, surtout nouveau cette saison à Turgovie. Il a fait une très bonne saison. Mais aussi là, il a beaucoup de bons atouts. Maintenant, voir si c'est assez ou pour être numéro 1 en National League, ce sera le moment où il va recevoir des matchs et puis jouer beaucoup de matchs qu'on va vraiment le voir. Mais je pense qu'il a un très bon potentiel.
Et pendant ces playoffs, c'est un petit peu ton stagiaire. Tu peux nous raconter comment vous collaborez en tribune de presse?
Il est à côté de moi et puis je lui ai donné un petit House of Carbon.
Devoir.
Devoir, ouais, exactement. C'est important pour moi, ce qu'il fait pour voir, par exemple, où les rebonds vont chez Reto ou chez le gardien adverse. Et deuxièmement, je pense que ça aide Loïc à voir le match différemment un petit peu que quand il est juste là et puis il regarde. Comme ça, il apprend quelque chose. Et puis j'espère que c'est un petit, une petite pièce de développement qu'on a pu améliorer pendant ces playoffs.
Il bosse bien, t'es content de ton élève?
Il avait un peu de peine au début, mais ça s'améliore.
Justement, sur le parcours idéal pour ces jeunes, alors des fois on pose la question pour des attaquants, là, Gauthieron collabore beaucoup avec Turgovy, il a eu beaucoup de matchs cette saison, Loïc Gallet, plus que la saison d'avant. Combien de temps il faut rester en Swiss League? Est-ce que ça serait bien pour lui de faire une année en backup de Reto Berra pour que tu aies aussi un contact quotidien avec lui, par exemple? Quel est le meilleur chemin?
Le meilleur chemin pour lui maintenant, c'est de jouer à un bon niveau, ça veut dire la Swiss League. Ça, c'est parfait pour lui, pour l'année prochaine aussi. Et puis après, il faudra voir s'il continue à se développer. Je pense que c'est une option d'être numéro 2 ici à Fribourg. Mais à la fin, maintenant, il faut juste voir où ça aboutit. Mais comme j'ai dit avant, je pense qu'il a fait un gros pas cette saison-là. Et on espère qu'il fait la même chose l'année prochaine.
On voit beaucoup d'équipes de National League qui commencent à jouer avec deux gardiens plus ou moins égaux. C'est pas le cas de Gauthieron parce que voilà, il y a Reto Berra et qu'il est tellement dominant qu'il n'y a peut-être pas forcément de possibilité de concurrencer. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais dans un avenir proche, travailler avec deux gardiens, avoir ces possibilités, les challenger, les concurrencer, c'est quelque chose de bien? Ou en Suisse, ça va très bien avec un gardien et c'est peut-être plus facile aussi à gérer comme ça?
Bon, on a besoin de deux gardiens. Brian, il est obligé de jouer. Reto, de faire 52 matchs plus les playoffs, c'est trop. L'année prochaine, on a Champions League, Spengler Cup. Il faudra lui donner des breaks et puis il vient pas plus jeune non plus. Alors ça va être un petit peu la clé aussi de manager un petit peu le temps de glace de Reto l'année prochaine. Et puis il y aura des opportunités pour Brian, peut-être pour Loïc, de jouer plus de matchs.
Est-ce que tu penses sur ces deux dernières années de contrat, Reto Berra jouera peut-être un peu moins de matchs? Qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à maintenant?
Ouais, c'est dur à dire maintenant, mais probablement, ça ferait sens qu'il joue un petit peu moins. Pas énorme, mais un tout petit peu moins. Surtout avec un programme comme l'année prochaine.
Mmh. Un dernier mot peut-être sur Reto Berra, ou pas, on pourra y revenir. On a vu qu'il était très très expressif après la qualification, même pendant le match. On l'a vu des fois haranguer la foule, ce qu'il fait pas d'habitude. Et puis ensuite, dire qu'il venait pas aux interviews parce qu'il souhaitait se concentrer sur les playoffs. Il parlera pas pendant les playoffs. En tout cas, c'est ce qu'il a annoncé jeudi passé. C'est quelque chose que vous avez discuté ensemble. C'est quelque chose que toi t'as eu fait durant ta carrière, qui se fait beaucoup chez les gardiens. Jenny le fait. Comment tu vois un peu ces deux visages de Reto Berra?
Bon, le visage un peu expressif ou un peu émotionnel sur la glace, je pense que là il faut faire un peu attention, jamais trop haut, jamais trop bas. Alors,
t'as été étonné? Inquiet peut-être? Non.
Non, pas inquiet, mais on a reçu un but juste après, alors ouais. Ça sûrement.
Plat du pied de Turcauf, le B. Ouais.
Peut-être il a appris sa leçon là. Non, mais je pense que c'est les playoffs qui a des émotions. C'est normal, il faut juste les garder à un bon niveau ou un juste niveau. Et puis la deuxième question, c'était quoi déjà?
Le fait qu'il s'est mis après dans sa bulle, qu'il ne souhaite pas
à cause
pas
des
parler.
Interviews. Mmh. Ouais, il a joué au Colorado. Alors déjà dans mon temps au Colorado, le gardien qui jouait les playoffs ne faisait pas d'interview. Alors je pense que ça vient de là peut-être qu'il a choisi de faire ça comme ça, mais je trouve que c'est une bonne chose, se concentrer sur les playoffs et puis il pourra vous parler une fois qu'on a gagné le titre.
Ça perturbe les gardiens, les interviews?
Non, mais c'est jamais un problème quand ça va bien. C'est plutôt si peut-être ou deux matchs qui vont moins bien ou tu reçois peut-être un mauvais but en overtime, de répondre à ces questions, ça peut peut-être agacer un petit peu. C'est sûr que ça fait partie du métier, mais je pense que c'est un bon choix de sa part de rester dans sa bulle et puis de de me parler à moi. Et puis j'ai déjà assez de questions.
T'as gardé aussi cette tradition de Colorado quand tu étais revenu en Suisse, quand tu jouais avec Lugano. Tu te mettais aussi. Tu te murais dans le silence pendant les playoffs.
Oui, exactement. Moi, je trouvais ça super. J'ai jamais pensé, ça venait de Patrick Roy, peut-être même des gardiens avant, je sais pas. Mais j'ai gardé ça, j'ai trouvé que c'était une bonne chose de se concentrer sur le match, le prochain match, et pas devoir répondre à des questions sur le but numéro 2 qui est passé entre les jambes. Et puis, tu réfléchis à ce que tu as à faire et pas ce que les autres y pensent.
Alors, on voit qu'il y a des traditions qui se perpétuent d'Amérique du Nord en Suisse avec ce silence pendant les playoffs. Il y a des choses qui ont aussi évolué. Comment tu, de manière plus globale, dans ton job de coach des gardiens, qu'est-ce qui a changé par rapport à peut-être ceux qui te coachaient et toi maintenant? Est-ce que ça a beaucoup évolué?
Le coaching en soi, pas vraiment, si on veut. À la fin, surtout le goalie coach, on est un petit peu des coachs pour des athlètes individuels, si on veut. Alors là, ça n'a pas changé énormément. Après, le style de jeu, il y a eu des RVH, par exemple, qui est venu, où, comme on voit souvent, les gardiens, maintenant, quand ils sont au poteau, ils ont un genou par terre, l'autre un petit peu anglais pour fermer le poteau. Ça, c'est un petit peu quelque chose qui est venu il y a 8-9 ans en arrière. Juste des adaptations comme ça, mais le coaching en soi, je pense que c'est la même chose. Peut-être avec la plus jeune génération, on doit être préparé parce qu'ils ont des questions, ils voient des choses sur YouTube et tu dois être prêt à pouvoir répondre et à dire pourquoi on ne fait pas ça comme ça, mais comment on le fait. Nouveau, il faut être... Il faut être vendeur.
Il y a de tout sur YouTube. T'aimes bien YouTube?
Il y a des bonnes choses comme il y a des mauvaises choses. Mais je pense qu'il faut toujours être ouvert, voir peut-être des nouvelles choses qui peuvent nous donner un avantage envers les autres équipes. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont pas bien ou qui font pas beaucoup de sens.
T'as pas fait un David Ebischer Channel pour expliquer aux jeunes?
Non, ça, c'est pas moi. Ça.
Il y a la vidéo de ta bagarre avec je sais plus quel gardien en NHL. Tu t'étais...
Phil Sauvé, ouais.
Ouais, celle-là, on peut encore la trouver, non, je crois.
Je pense, je vais pas regarder. Mais c'était pas une...
T'étais coéquipier avec lui, non?
Oui, et puis on s'attendait bien. On s'est bagarré et puis...
C'était pour rire.
Non, c'était pas pour rire, mais ça fait partie du sport. Et puis, il m'a invité pour son mariage un mois plus tard. Alors, ça va.
Vous n'êtes pas rebattu au mariage?
On ne s'est pas rebattu.
Il y a Simon Gremaud qui nous demande qu'est-ce que tu aimes dans ton métier, puisqu'on évoquait son développement.
J'adore travailler avec les athlètes et puis voir comment ils progressent, trouver des solutions à des problèmes. Je pense que c'est quelque chose que j'aime bien. Et puis aussi de rester dans le sport, dans le hockey, c'est ma passion depuis tout petit. Et puis surtout les gardiens, je pense que c'est quelque chose que j'adore. Et puis,
Tu t'imaginais faire ça, entraîneur des gardiens?
Oui et non. Quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai rien fait pendant une année. J'ai voyagé un petit peu, voir des amis qui ont des postes dans des équipes de hockey, pour voir ce que je voulais faire. Et puis à la fin, c'était entraîneur de gardien que j'avais envie de faire.
Ton métier pendant les matchs, les gens le savent moins, mais c'est aussi de regarder le match sur un énorme écran, peut-être un peu grand, mais pour tes yeux, là, on se fait du souci. Tu re-regardes j'imagine que tu analyses les deux gardiens, mais tu as aussi un rôle plus ou moins important dans les coach challenge, ou tu es même le responsable des coach challenge?
Oui, on essaie de regarder. Il y a toujours un vidéo coach à côté. Et puis là, on regarde des situations de hors-jeu ou de passer avec la main. Et puis ici, il faut faire un challenge. Donner au coaching staff notre avis. Et puis à la fin, c'est le coaching staff qui décide. C'est un job. c'est avec un certain niveau de stress des fois. Et puis, mais ça fait partie. Et puis, c'est peut-être pas quelque chose que j'aime faire, mais je pense que c'est nécessaire. Mmh. Et puis, si ça peut aider l'équipe à gagner des matchs, ben, tant mieux.
C'est peut-être l'occasion de reparler du but litigieux d'Andrei Bykov hier. Lausanne a challengé pour un.
Andrei Bykov ou Julien Sprunger?
Alors, d'après Andrei Bykov, c'est Julien Sprunger. D'après Julien Sprunger, je pense qu'il pense aussi que c'est Julien Sprunger d'après sa célébration. D'après les arbitres, c'est Andrei Bykov. Mais par rapport à cette action-là, Lausanne a challengé. Est-ce qu'au moment où les arbitres regardaient la séquence, t'étais serein ou alors tu te disais « Ouh là là, c'est limite ».
Tout au début, j'étais là « Ouh, c'est limite ». Après, quand on regarde un petit peu plus près, puis on analyse aussi un petit peu le... qu'est-ce qui est le hors-jeu. Ça veut dire que c'était hors-jeu une fois que le puck il a traversé la ligne bleue. Mais après, Julien a ressorti sur son patin sur la ligne bleue. Et là, il n'y a plus hors-jeu. Mmh. Alors, une fois qu'on a fait cette analyse, on était assez serein. Mais à la fin, on ne peut jamais être sûr. C'est deux êtres humains qui décident. Et puis... on ne peut jamais être sûr. On a aussi déjà pris des challenges, on était sûr de gagner et puis on a perdu.
Ouais, mais qu'est-ce qui a été jugé là finalement? C'est le fait que Julien avait remis son patin sur la ligne et qu'il était plus hors-jeu, ou c'est le fait que Pilot, c'est lui qui rabat le puck et qui le ramène dans sa zone?
Moi je pense que c'est le patin de Julien, je n'ai pas entendu qu'est-ce qu'il parlait, mais à mon avis c'est plus le patin de Julien qui a fait que c'était pas hors-jeu.
Vous avez quand même eu un certain succès cette saison, je crois, avec les coach challenge. Ça, faut avoir l'œil, mais vous êtes intervenu quelques fois à bon escient.
Des fois, c'est facile. L'arbitre, il a juste fait une erreur. Après, à d'autres instants, c'est plus compliqué. Par exemple, premier but Lugano qui ont marqué au match 7, on n'a pas challengé. Sur le moment, on pensait que c'était une bonne décision. Le lendemain, quand j'ai regardé encore une fois...
C'est quart à 4 contre 5.
Ouais. Je ne suis pas sûr que c'était la bonne décision. À la fin, on a gagné, mais ça, c'était peut-être une erreur de ma part.
Vous auriez challengé pourquoi sur cette action?
Hors-jeu.
Hors-jeu, ouais. Ok. Non, je voulais juste dire que hier, quand ils sont allés revoir les images du tir de Rochette qui tape un peu dans le dos de Berra, on ne voit pas bien si ça a traversé ou pas. Vous étiez prêt à challenger, hein. Il y avait un hors-jeu clair au début sur la zone. Donc vous avez regardé, assisté à cette séquence, l'esprit libéré. Vous avez dit, de toute façon, s'il y a but, nous on arrive derrière et on l'annule.
Exactement. Là, on était sûr que le but n'allait pas compter parce qu'on allait challenger ce but-là, si jamais.
Vous avez, entre guillemets, une tactique pour challenger ou c'est vraiment toi qui dis « moi, je challenge » puis après, Christian Dubé qui décide s'il challenge ou pas, ou dans certains cas, vous dites ben, « il faut prendre un risque, on y va même si on n'est pas 100% sûr » ou « il faut absolument être certain ». Enfin, comment vous gérez un peu ces moments, tu dis, de toi-même de stress?
Ben, ça dépend le score. Des fois,
ça vaut pas la peine.
On prend un risque. Surtout l'année passée, c'est arrivé une ou deux fois où c'était pour moi pas très clair, mais parce que c'était un troisième ou quatrième but, il fallait prendre le risque parce qu'on avait une chance de gagner encore le match. Ça dépend toujours un petit peu. Après, quand tu es 100% sûr, il faut le prendre. Mais surtout avec les interférences de gardiens, ça c'est, je pense, le plus difficile parce que ça, c'est vraiment, ça dépend de l'arbitre. On essaie aussi un petit peu de regarder quel arbitre est là et quelles sont ses tendances plutôt favorables aux gardiens, aux joueurs.
Vous auriez pu contre-challenger hier si tout d'un coup le but avait été annulé, celui d'Andrei ou Julien, et vous vous dites non, mais en fait c'est Pilot qui remet le puck, ou je sais pas, vous êtes sûr de votre coup, vous pouvez reprendre un coup de challenge sur le coup de challenge, ou c'est pas possible?
Ça c'est possible, mais je sais pas si ça fait beaucoup de sens de challenger quelque chose, c'est la même situation qu'ils ont déjà regardé, ils ont pris une décision.
Ouais, à ça part si c'est pour pointer autre chose qu'ils auraient pas vu, peut-être.
Oui, mais c'est risqué.
Vous l'auriez pas fait?
Non.
Ouais.
Wer ist dein Vorbild als Torhüter? On a une question en allemand, donc, de Marcine, qui nous demande...
Je réponds en allemand.
On traduit.
Traduction partie.
Patrick Roy, c'est un idole. À 13 ans, je suis parti au Canada pour un tournoi Pee-wee de 2 semaines. Là, j'ai eu la chance de voir Patrick jouer. Bien sûr, tout le monde au Québec parlait que de Patrick. Alors ça, c'était, je pense, l'idole où j'avais les posters et tout ça dans ma chambre comme enfant. Et puis tout au début, c'était Dino Slecher.
Est-ce qu'en Suisse, il y a un gardien qui t'impressionne plus qu'un autre, en dehors de Reto Berra, actuellement?
Bon, Giannoni, il est impressionnant, sa force mentale qu'il a. Je pense que si on regarde les titres qu'il a fait, c'est vraiment le gardien de ces dernières dizaines, quinzaines d'années. Après, il y a beaucoup de gardiens suisses qui m'ont impressionné. On peut commencer avec un Reto Pavoni qui a joué un petit peu un style papillon comme on voit maintenant. On avait Renato Tosio qui était spécial aussi. Il y avait Hiller, il y avait Gerber. Je pense qu'il y a pas mal de gardiens où tu essaies de prendre un petit peu des choses et puis l'implémenter dans ton jeu à toi.
On voit qu'il y a de plus en plus de gardiens étrangers quand même qui prennent de la place dans cette ligue. Pas trop représentatif sur ces demi-finales, puis qu'il n'y a que Rubec finalement, qui est un gardien étranger. Mais est-ce que quand tu vois cette tendance-là, clairement liée au nombre d'étrangers qui a augmenté, tu te fais un peu du souci pour les gardiens suisses?
Oui, je me fais des soucis, mais il y a plus de facteurs que de juste regarder la National League. Si on regarde le problème de la Swiss League, ça c'est aussi avec 10 équipes, beaucoup de vétérans dans le but. Il manque un petit peu le temps de jeu pour les jeunes. Mm-hmm.
Je voulais conclure quand même avec quelques bons souvenirs de ta carrière. Déjà, tes débuts à Fribourg, qu'est-ce qui te reste de cette époque-là? Donc, on était en 97, là, ça nous rajeunit pas. Juste avant d'être drafté en NHL, ces matchs-là, tu t'en souviens? C'était des moments forts, c'était déjà une sorte d'accomplissement, de rêve?
Oui, je voulais toujours jouer pour Fribourg. Et puis, en 96 ou 97, mon premier match contre la Chaux-de-Fonds, j'ai pu jouer 20 minutes. Et puis, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis aussi, tu sentais que tu étais sur le bon chemin pour réussir à jouer en National League, de jouer en équipe nationale et peut-être d'aller plus loin.
Et tu es allé plus loin, évidemment. Parlons aussi un petit peu de cette NHL en vitesse.
Parce que t'es drafté et tu pars tout de suite après, hein, derrière. Et maintenant, on voit que des fois, les joueurs restent un petit peu, ont du temps de jeu ici en Suisse. Enfin, il y a différents chemins. Toi, t'es parti rapidement.
Oui, j'étais surpris d'être drafté. J'ai reçu un coup de téléphone à, je sais plus, 8h du matin de Radio Fribourg. Ma mère est venue vers moi, elle a dit à Radio Fribourg. J'ai pris le téléphone, ils m'ont dit « Félicitations ». J'ai dit « Pourquoi ?» Tu étais drafté.
C'était pas la Liberté qui t'a appelé?
Non, désolé.
C'était quoi ce travail à l'époque?
Désolé.
On dira à Patricia.
Ouais. Alors, j'étais surpris, mais j'y croyais pas trop. Je pensais que c'était une blague ou dans le temps, il y avait sur Radio Fribourg, il y avait les blagues. Là, un gars qui téléphonait.
Un canular.
Alors, je pensais que c'était un truc comme ça. Je suis allé sur Télétexte. Pour les jeunes, y a les parents qui peuvent expliquer ce que c'est. Et puis j'ai vu que j'étais repêché, et puis là, je suis tombé des nues, et puis super content. J'ai pu aller au camp d'entraînement des Avalanches, je suis revenu à Fribourg. Et puis tout d'un coup, juste avant un match, on jouait au foot dehors. Il y a le GM Leuenberger dans le temps qui est venu vers moi, il a dit « Viens voir ». T'as jusqu'à 9h ou 10h du soir pour signer ton contrat, sinon tu peux re-signer que l'année prochaine. Alors j'ai dit bon, je signe, j'ai signé, et puis le lendemain ils m'ont appelé, ils m'ont dit tu pars demain, tu viens aux États-Unis, et puis je suis parti.
L'histoire était en marche.
Bah oui, ouais. Quelle histoire.
Sacré début quand même d'aller checker sur le télétexte pour voir si...
T'avais aucun indice, donc peut-être tu serais drafté.
Non.
T'étais inscrit quand même à la draft, j'imagine. Ou bien il n'y avait même pas ça.
Il n'y avait même pas ça. J'étais déjà... L'année d'avant, j'aurais pu être drafté. Là, il y avait une ou deux équipes qui étaient intéressées, mais je n'étais pas repêché. Là, j'ai dit, ouais, je pense que ça ne va pas être possible. Et puis, alors, j'étais très surpris d'être pris l'année d'après.
Après, on va arriver, enfin, on va avancer jusqu'à la victoire en finale et le gain de la Coupe Stanley avec une question de Joël Torche qui demande quel souvenir tu as de ton retour avec la Coupe Stanley, donc ton retour à Fribourg, j'imagine.
Bah, c'était une certaine fierté quand même de pouvoir ramener cette coupe ici à Fribourg pour les gens ici déjà, les gens qui m'ont soutenu tout au long de ma carrière, pour leur dire merci, mais aussi pour la région, une région qui est quand même une région d'hockey. C'était super, je pense que la journée à la fin s'est passée tellement vite, je ne sais pas combien de photos on a dû faire avec cette coupe. Et puis là, ce qui est un peu spécial, c'est qu'au début, il y a comme des bodyguards qui viennent avec la coupe. Et puis le joueur, il doit toujours avoir une main sur la coupe pour chaque photo. Il n'y a personne qui peut juste prendre la coupe. Alors chaque photo, tu devais être là et puis sourire. Alors c'était vraiment une très longue journée, une longue soirée aussi, mais tout à la fin, les bodyguards, ils venaient fatigués aussi. Alors, on était à la rose dans le temps. Je ne sais pas si ça existe encore.
Oui, oui.
Alors, je pense qu'il y a tout le monde qui avait la coupe. Elle était un peu partout.
Est-ce que tu as toujours la bague de vainqueur? Tu la portes des fois ou tu l'as?
Jamais.
Non, elle est dans un tiroir.
Ouais, elle est dans un tiroir ou dans une box.
Pas dire où. Tu veux peut-être pas dire où elle est exactement.
Non,
mais elle est trop grande, de toute façon, pour mettre.
Ouais.
Voilà, on va pas refaire toute ta carrière, mais après la NHL, t'as joué encore pendant le lockout à Lugano, à Coire, Rapperswil, Thurgovie. T'es jamais revenu à Fribourg. Est-ce que c'est un regret ou voilà, c'est la vie et ça ne s'est pas fait? Ou tu aurais eu envie de rejouer une fois à Fribourg?
Un regret, oui et non. Pendant le lockout, c'était fait. Je revenais à Fribourg, je jouais à Fribourg. Et puis au dernier moment, on m'avait dit qu'ils ne voulaient pas de star dans l'équipe. Alors, ils voulaient pas que je vienne jouer ici à Fribourg.
C'était Roland Van Mentlen à l'époque?
C'est juste, ouais. Et puis comme ça, j'ai signé avec Lugano. Ça, je pense, c'est un regret, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup plus que j'aurais pu faire pour changer ça. Et puis il y avait une fois encore, je ne sais pas quelle année, une petite opportunité, ce qui s'est après pas fait pour différentes raisons.
Ouais. Puis tu reviens en novembre 2007 en Suisse, c'est juste?
Ouais.
Et là, à ce moment-là, c'est Caron qui est à Fribourg. Ouais. Donc là, il n'y a même pas eu de discussion. C'était impossible, ça ne pouvait pas se faire.
Non, ma situation en Amérique du Nord était un peu spéciale. Je me suis fait descendre la NHL en Ligue américaine. En Ligue américaine, ils avaient deux jeunes gardiens qui voulaient pousser. Il n'y avait pas vraiment de place pour moi. Et puis, puisqu'ils ne voulaient pas payer mon salaire... On se sentait un petit peu poussé dehors, mais après, il y a l'opportunité qui est venue avec Lugano et puis je suis revenu en Suisse.
Votre vision, notre expertise. Régibule Immobilier répond à toutes vos attentes. Gérance d'immeubles, administration de copropriété, courtage et expertise. Retrouvez toutes nos offres sur régibule.ch.
Eh bien justement, tu nous donnes l'occasion de conclure avec le dernier sujet que je voulais aborder avec toi. Tu parlais de deux jeunes gardiens qui voulaient pousser en AHL. Il y a le cas Ludovic Weber qui a tenté sa chance. On voulait quand même t'entendre sur le sujet. Alors, ça a surpris pas mal de monde qui partent à ce moment-là de sa carrière en Amérique. C'est assez compliqué pour lui cette saison. Comment toi, tu vois ça de l'extérieur? Je ne sais pas, tu as des contacts avec lui. C'est pas évident. Est-ce que c'est vraiment finalement que lié à son âge? Parce qu'on se dit que voilà, une franchise peut être mise sur des gardiens plus jeunes et c'est difficile de percer à ce moment-là, ou tu vois d'autres difficultés pour lui?
Non, le cas Ludo est un peu spécial. Pour lui, c'était important. À mon avis, c'était important qu'il parte et puis qu'il tente sa chance. Parce que sinon, il allait regretter ça toute sa carrière. Pardon. Et puis, moi, j'étais le voir, c'était au mois de décembre. Sa situation, elle est un peu spéciale, parce qu'il y a Spencer Knight, qui est supposé d'être numéro 2, avait des problèmes, et puis jouait en Ligue américaine. Et puis ça, c'était pas prévu, alors... Il y avait une place de moins en Ligue américaine pour Ludo pour jouer. Et puis, tout ça, ça s'est compliqué. Je pense qu'il n'a aussi pas fait les meilleures performances. Il s'est fait échanger. Et maintenant, il est dans une organisation. Il y a deux jeunes gardiens qui performent très, très bien.
La saison qu'il a été, il a été échangé ces dernières semaines, il est maintenant dans l'organisation de Pittsburgh. Il a annoncé dans sa chronique au matin dimanche qu'il allait probablement rentrer en Suisse. On rappelle qu'il est encore sous contrat avec Zurich. Rubetsch sera encore là, donc il a une année de contrat. Tu nous vois venir avec notre question. Est-ce que ça doit être une priorité pour Gauthieron pour l'après Berra? Est-ce que tu vois déjà un peu plus loin que 2026?
Ouais, je pense qu'on ne peut pas se focusser juste sur ça, mais personnellement aussi, ça ferait plaisir qu'il revienne à Fribourg. Ça me ferait plaisir de retravailler avec Ludo. Mais à la fin, maintenant, il faut une fois voir qu'est-ce qui se passe. C'est dur de prévoir maintenant pour 2026-2027. Mm-hmm. Mais c'est sûr que ce serait une superbe option pour Gauthieron.
Ouais. Saison 2025-2026 avec Reto Berra et Ludovic Weber, possible ou impossible?
Ouais, tout est possible.
Ah. C'est pour ça que tu as été discuté avec lui?
Non.
Un peu. Vous avez évoqué le sujet quand même.
On est toujours resté en contact aussi quand il était à Zurich. On parle souvent. Il vient aussi, on a un camp pro avec certains goalie coach et puis il vient aussi là. On est toujours resté en contact. J'apprécie aussi le gardien, la personne. Puis je pense que lui, il adore aussi. Je lui dis un petit peu les choses comme je les vois. J'essaie de lui donner les meilleurs conseils possibles. Maintenant, peut-être le conseil de partir, peut-être il voit ça différemment. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est une expérience de vie pour lui. Ça va le faire un meilleur gardien aussi.
Il ne doit pas rester une deuxième saison. Il a raison de rentrer.
Non, moi, je pense que les circonstances, c'est lui personnellement qui doit savoir ce qu'il veut. Et puis maintenant, si on regarde ces statistiques, ces nombres de matchs, ça va être difficile de rester.
D'obtenir un contrat, ouais, j'imagine qu'il n'aura pas, il va pas susciter d'intérêt. Très bien.
On demande encore comment tu vois la fin de cette demi-finale. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient savoir, qui aimeraient des pronostics, qui disent c'est serré, mais ça va évoluer comment? Tu disais ce premier match était un peu un round d'observation. T'arrives à imaginer le scénario de cette demi-finale?
Ben, tant qu'on gagne, ça c'est le plus important. Maintenant, je pense que Lausanne va venir fort, surtout là, le deuxième match. Je pense un petit peu ça donner le même scénario à peu près comme contre Lugano. Ça ne veut pas dire qu'on va à match 7, mais les matchs vont venir un peu plus dur, nous un style de jeu plus play-off que, qu'on a vu au match.
Parfait.
Petit pronostic, non.
Compliqué, hein.
Risqué.
Tu veux te lancer ? T'aimes les pronostics ?
Non.
Ok, alors on s'arrête là. Chacun fera son pronostic. Ouais. Merci beaucoup, David, pour le temps consacré. C'était un plaisir.
Oui, merci.
Et bonne suite de play-off. Voilà.
Bye bye.
C'était Point de vue avec Régis Bulle Immobilier.
Vous venez d'écouter Point de vue, le podcast de la liberté consacré à l'actualité de Fribourg-Gottéron. Si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous sur votre app de podcast préférée. Vous pouvez aussi nous retrouver sur laliberté.ch et l'application de la liberté. À bientôt pour un nouvel épisode.